Europe 1. Écoutez le monde changer.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bon, j'espère que votre semaine s'est bien passée. Moi, je suis ravie de vous retrouver tout ce week-end dans la libre antenne d'Europe 1. Alors ce soir, une émission raccourcie, effectivement, du fait de l'actualité sportive. Mais commençons l'émission avec une citation d'Honoré de Balzac. En France, il faut toujours prendre l'envers du mot pour en trouver la vraie signification. Le célèbre écrivain français du 19e siècle nous conseille pour mieux comprendre la langue française. Il nous dit qu'en inversant la logique ou le sens d'un mot, on comprend mieux sa signification. Reprenons à notre compte ce conseil, mais transformons-le légèrement et permettons-nous de paraphraser Honoré de Balzac. Il faut toujours prendre l'envers de la situation pour en trouver la vraie signification. Ce soir, donc, inversez la situation avec nous, qu'elle soit triste ou joyeuse, racontez-nous et appelez-nous au 3921. Pour venir enrichir notre chaîne d'amitié de la Libre Antenne par SMS, il vous suffit de composer le 739-21, 50 centimes d'euros la minute, en commençant par le mot « nuit ». Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1. Vous pouvez également nous contacter par mail à libreantenne@europe1.fr. L'équipe est prête, Aldric et Estelle vous répondront au standard du 3921. Andreas Papazian est aux commandes et réalise l'émission ce soir et je vous dis à tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1.
Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous accueillons notre première auditrice et c'est Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir Sana.
Comment ça va ?
Ben, ça va.
Bon, alors Anne-Marie, on va être très transparente vis-à-vis de nos auditeurs. Anne-Marie, oui. Je vous avais eu l'année dernière, je crois ?
Oui.
Bon, ou cette année, je ne sais plus. Nous avions échangé et puis ensuite vous m'avez contactée pour une consultation à mon cabinet. Et puis, il y a eu le confinement.
Oui.
On n'a pas pu se voir.
Oui.
Mais on est restés en contact toutes les deux.
Oui.
Voilà. Donc on s'est appelés de temps en temps.
Oui, oui. Surtout pendant le confinement, oui.
Voilà, pour se remonter le moral l'une et l'autre.
Oui, pour de l'aide. Pour de l'aide, pour de la viande, vous m'avez aidé pour le boucher, tout ça.
Voilà. Alors, on va expliquer. En fait, Anne-Marie, vous avez des problèmes de santé ?
Oui.
Et en fait, vous étiez dans une situation très difficile pendant le confinement, d'où effectivement les petits conseils que je pouvais vous donner à la hauteur de ce que je pouvais faire, mon aide. Et voilà. Donc là, en revanche, il y a encore une situation délicate et difficile que vous allez traverser. Donc je vous laisse, je vous invite à nous expliquer ce qui vous arrive.
Oui, alors, je crois que j'avais parlé de deux choses. Oui, j'ai mon compagnon qui va se faire opérer du cœur. Et je vais être toute seule pendant 3 semaines, à peu près. Mais c'est pas trop la solitude. Enfin, si, c'est quand on se retrouve toute seule comme ça, du jour au lendemain. Mais c'est surtout que j'ai des problèmes respiratoires et que si j'ai un problème d'oxygène, que je manque d'oxygène, par exemple la nuit, je ne peux pas appeler parce que je respire très mal.
Voilà.
Alors, oui.
Et puis, il y a autre chose aussi, c'est vous êtes non-voyante.
Oui.
Donc, il y a ça aussi. Donc, non-voyante, vous êtes branchée à un appareil qui vous permet de respirer parce que vous avez de gros, gros soucis au niveau du
respiratoire,
absolument. Et là, donc, votre compagnon, il se fait opérer mercredi, c'est ça ? De cette semaine ?
Non, du coup, il se fait opérer
Ah, c'est jeudi,
il
alors
rentre... Ben, ça a été... La secrétaire médicale m'a appelé. Il rentre mardi et il s'est opéré jeudi.
Voilà.
Et après, il ira en maison de repos. Donc, alors, peut-être... Là, c'est parce que le mois d'août, il n'y a pas grand monde.
Oui.
Ça tombe mal. C'est surtout que ça tombe mal. Donc, moi, je peux partir 4 jours avec une amie dans une famille. Mais c'est après, quoi. Je ne sais pas du tout...
Quoi faire.
Parce qu'en fait, ça peut arriver que d'un seul coup, je manque d'oxygène. Parce que le fil, le raccord s'est enlevé. Et si je manque d'oxygène, il ne faut pas faire trop d'efforts. Parce que ben après, ça peut devenir...
délicat.
Parce qu'une année, en 2016, enfin, il était là cette fois.
Voilà.
Cette fois-ci, j'ai manqué d'oxygène. Et bon, il était là, heureusement. Oui. Et quand le SAMU est arrivé, ils lui ont dit, heureusement, vous avez appelé. Mm. Il ne lui reste plus qu'une heure à vivre, il faut faire très vite.
Alors en fait, là, votre crainte, hein, et elle est tout à fait légitime, hein, c'est de vous retrouver dans la même situation, sauf que votre compagnon ne sera pas là pendant...
pour quand appeler même... s'il faut appeler.
Voilà, c'est exactement ça. D'où votre appel. Donc l'objectif est clairement un appel aux auditeurs. Et donc Anne-Marie, je vous invite... à nous dire, idéalement, ce que vous aimeriez proposer, justement, pendant cette période où votre compagnon ne sera pas là.
Trouver peut-être quelqu'un qui... Oui, mais je ne sais pas... Après, il faut expliquer comment marquer. Je peux faire venir un lien médical qui explique comment relier les accords d'oxygène, ça peut toujours s'expliquer. Peut-être trouver quelqu'un qui... Une dame, hein, de préférence.
Oui.
Quelqu'un qui puisse être là quand je serai seule.
Voilà.
Quelqu'un que je puisse contacter, qui puisse être là quand je serai seule.
Alors,
si un soir, il n'y a personne qui peut être là.
Donc, idéalement, une accompagnatrice, quelqu'un qui serait là, donc qui dormirait chez vous, en fait.
Oui.
Voilà.
Parce que j'ai des auxiliaires de vie. Mais moi, je suis sous-curatrice, donc une auxiliaire de vie, j'ai pas droit la nuit, ça coûte trop cher.
Oui.
Je pourrais pas la payer, l'auxiliaire de vie.
Oui.
Avec même la PCH, je peux pas la payer, l'auxiliaire de vie.
Absolument. Donc en fait,
pour la nuit,
on est bien d'accord. Donc en fait, idéalement, si quelqu'un a envie de faire une belle action, une bonne action, qui souhaite éventuellement également découvrir Paris au mois d'août, parce que c'est sympa Paris au mois d'août.
Ah oui, il n'y a personne.
Il n'y a personne. Il n'y a pas de voiture. Il fait beau. Je vends le truc, hein, Anne-Marie, je le vends. En plus, Anne-Marie habite dans un quartier plutôt sympathique de Paris.
Ouais.
Anne-Marie est adorable, vraiment. Et moi je passerai, je vous l'ai promis, Anne-Marie, je passerai vous faire un bisou le week-end du 15 août. Mais idéalement, voilà, si on pouvait trouver quelqu'un vraiment, donc une dame, si quelqu'un a envie de faire une bonne action. Et
oui, je ne connais pas Paris, c'est vrai qu'elle visiterait. Et puis moi, j'ai travaillé au musée d'Orsay, je peux les appeler et leur demander s'ils peuvent la recevoir et même s'ils ont une expo. Enfin, je peux me renseigner là-dessus, par exemple.
Alors, nous avons reçu un SMS de Mamie Tam Tam que nous embrassons, qui est une fidèle auditrice et qui participe souvent. Bonsoir, Mamie Tam Tam, et qui dit voilà, bonsoir, cette dame est sous assistance respiratoire. Elle a obligatoirement un bip d'appel d'urgence en cas de problème.
Non, je l'ai pas parce que j'ai pas 60 ans.
D'accord. Bon ben voilà. Voilà, Mamie Tam Tam. Nous avons la réponse. Donc effectivement, votre il n'y a pas de bip d'urgence. Tiens.
Non.
Et en fait, c'est à partir d'un certain âge. Comment ça fonctionne en fait?
C'est un on peut le mettre autour du cou. Oui, ça se met autour du cou et on appuie sur un bouton. Et mais quand quand j'ai une personne de la MDPH qui s'est déplacée pour ça, enfin pour faire les démarches, pour avoir les auxiliaires de vie, c'était en 2007. Et là, elle m'a dit, c'est pas avant 60 ans.
Ah tiens.
Sinon, faut les acheter, puis ou je sais pas quoi. Non, puis le problème de l'oxygène, enfin, cette histoire, ça s'est jamais... Je trouve pas mes mots.
Simplement, ça ne s'est jamais... D'ailleurs, alors, avant de trouver, moi, je suis très surprise quand même qu'on n'ait pas pris en compte votre malvoyance, quand même... Il y a quand même là un contexte spécifique, c'est moins de 60 ans qu'il n'y ait pas de bip bon. Déjà, on ne sait pas sur qui, enfin comment, dans quel état de santé se trouve la personne. Mais vous, en plus, Anne-Marie, vous avez un handicap de plus, donc c'est très surprenant que vous n'ayez pas ce type d'appareil, enfin cette option en fait.
Oui. Je vais essayer de refaire une demande. Pour la suite, parce que si ça devait m'arriver de me retrouver toute seule, en fait, moi, j'ai peur de ne pas pouvoir appeler. En fait, c'est surtout j'ai peur de ne pas pouvoir appeler.
Bien sûr.
Et puis de m'étouffer comme ça, quoi.
Oui, non, mais votre peur, elle est tout à fait légitime, rassurez-vous.
Alors, une année, il m'est arrivé en 2008, et ben, je respirais très mal. J'ai juste eu le temps d'appeler quelqu'un de la paroisse qui m'a dit, oh là là, il a dit, j'arrive. Il m'a dit, ça je me rappellerai toute ma vie. Ça m'arrange pas, mais j'ai des pommes à vous porter, donc j'arrive. Et c'est lui qui a appelé les secours à la maison.
Ah oui.
Et après, je suis tombée dans le coma.
Oh là là. Bon, non mais on comprend parfaitement. On comprend parfaitement. Donc, est-ce qu'il y aura besoin d'une formation, de montrer comment ça fonctionne?
Ah ben, j'appellerai Elia Médical et il y a un technicien qui montrera. Ah oui, qui montrera, bien sûr.
D'accord.
Oh, c'est pas grand-chose à faire, c'est vérifier la cuve et puis surtout raccorder le fil.
Bien sûr.
Parce que quand on bouge, et ben,
ça peut se décrocher. Oui. D'accord. Donc, pour les dates, ce serait de quand à quand, alors, Anne-Marie?
Alors, attendez, parce que moi, je... Alors, il part mardi. Moi, je pars samedi. Donc, je ne sais pas qui est-ce que je vais avoir la nuit du mercredi, du jeudi, du... Faut que je... Je ne sais pas trop. Il faut que je contacte la personne.
D'accord.
Si elle veut... Qui voudra bien venir, il faut que je contacte la personne.
D'accord. Bon, nous, de toute façon, on vous promet, hein, si, dès qu'on a des retours, on vous met en contact, Anne-Marie, rassurez-vous. S'en occupe. Oui, on s'en occupe également. Donc, oui, bien sûr. Et votre compagnon, il faut aussi le dire, il est non-voyant également?
Oui, voilà. Il n'a pas ces problèmes-là, lui. Non.
Mais il est. Bon.
Et donc. C'est le cœur.
Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Si vous voulez, je vous le passe.
Ah, bah oui. Oui, ce sera l'occasion, ce sera la première fois.
Mousse.
Mousse de mousse.
Mousse, elle veut te parler, Sana. Ah oui. Oh, ça serait bien que je trouve que. C'est vrai que. Voilà, il arrive.
Bon. Et qu'est-ce que vous avez prévu, Anne-Marie, pendant cette période-là? Est-ce que vous allez sortir? Est-ce que...
Ah ben, je vais à côté de Châteauroux 4 jours.
Oui, près de votre ami.
Bien.
Très bien.
Lui, il est en bonne main. Et sinon, je reste là, j'irai le voir à l'hôpital.
D'accord.
Parce qu'il est hospitalisé 10 jours, et puis après 15 jours de maison de repos.
D'accord.
Voilà, je vous le passe, hein, Sana.
D'accord.
Et je vous reprends après.
D'accord, Anne-Marie. Bonsoir, Mousse. Vous m'entendez?
Oui.
Bonsoir.
Oui, bonjour.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Oui, je vous écoute.
Je vous disais bienvenue à la Libre Antenne.
Oui.
Ah bon, Mousse, comment vous vous sentez par rapport à ce qui vous arrive là?
Je pars confiant alors.
C'est vrai? Bon, bah tant mieux. Ah bah oui. C'est important. C'est très très important. Je le conseille très souvent quand on est sur le point de se faire opérer, et c'est un petit conseil également que je donne aux auditeurs. On a tous, et c'est normal, la frousse de se faire opérer.
Bien sûr qu'on a la frousse.
C'est pas un moment agréable, on a peur de l'anesthésie, on a peur de l'opération, on a peur de ne pas se réveiller, on a peur de plein de choses. Et en fait, ce qui est important quand on a peut-être cette poussée ou cette montée d'angoisse ou d'anxiété, c'est tout simplement, Mousse, et les auditeurs, c'est donc de faire de la visualisation. Donc Mousse, voilà le conseil que je vous donne. Vous allez donc imaginer votre entrée à l'hôpital, comment ça va se passer, comment est-ce que vous allez retrouver cette pièce, cette chambre. Peut-être allez-vous être avec quelqu'un, peut-être allez-vous bénéficier d'une chambre seule. Et puis ensuite...
On m'a dit que j'en aurais une.
Ah ben, une chambre, c'est bien, mais une quoi alors?
Une
chambre individuelle, très bien. Donc, vous allez avoir une chambre individuelle et puis vous continuez. Donc voilà, une journée où vous entrez donc le mardi, le mercredi probablement une batterie d'examen, et puis jeudi l'opération.
Eh ben oui.
Et puis en fait, la visualisation, c'est de continuer après. Et vous allez donc continuer. Qu'est-ce que vous allez faire après l'opération, Mousse? Qu'est-ce qui va vous arriver ensuite?
Ah bon, j'en sais. Il paraît qu'il est prévu quelques jours de... Déjà 10 jours à l'hôpital.
D'accord, voilà.
Et puis sans doute 15 jours en maison de repos.
Voilà, donc ça va être de la visualisation. Donc on ne s'arrête surtout pas à l'opération et on continue. Ah bah et on s'imagine donc après l'opération, voilà ce qui va m'arriver, voilà ce que je vais faire, etc., etc. Donc c'est ça la visualisation, ça permet de limiter en tout cas les angoisses et de se dire que tout va bien se passer. Voilà, mon cher Mousse. Et nous, on s'occupe de trouver une âme sensible, une âme généreuse pour prendre soin d'Anne-Marie pendant votre absence.
Eh bien, d'accord.
Bon, en tout cas, on vous embrasse et on vous souhaite, le meilleur pour la suite, en tout cas. Et un prompt rétablissement.
Essayons.
Mais oui, Mousse, tout va bien se passer.
Oui.
Je veux bien de nouveau reparler à Anne-Marie, s'il vous plaît.
Elle arrive.
Merci.
Bon, tiens.
Voilà.
Bon, Anne-Marie, on vous tient, au courant dès que ça bouge pour vous. Je pense que l'appel est très clair. Donc, c'est de pouvoir accompagner Anne-Marie pendant la période où son compagnon va être hospitalisé. Ne serait-ce que pour lui apporter déjà une présence, pour la rassurer du fait de ses problèmes respiratoires. Voilà, et puis de profiter également. Donc vous offrez en tout cas le gîte.
Oui.
Voilà, dans un cadre plutôt sympathique. Et puis Paris en été, c'est au mois d'août, c'est vraiment très agréable également.
Oui.
Ça va aller?
Oui, ça va.
Bon.
En tout cas, je vous enverrai des textos.
Ouais.
Vous les lirez, j'espère. Et puis,
comme toujours.
Si vous pouvez, vous me répondrez. Et puis,
absolument. Et je vous ai dit, je passerai vous voir.
Oui, Sana. Oui.
D'accord.
D'accord.
Bon, je vous embrasse bien fort.
Moi aussi, Sana.
Et à très vite.
À très vite.
Au revoir, Anne-Marie.
Au revoir, Sana.
D'Europe 1. Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nous accueillons notre probablement dernière auditrice de l'émission, version raccourcie, qui est Nina. Bonsoir Nina.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Merci de m'accueillir. Je ne sais pas trop par quoi commencer en fait. Je parlerai un peu du confinement là.
Bien sûr.
Moi, j'ai été confinée déjà depuis février.
Oui.
Et je suis toujours confinée.
Ah.
Parce que je fais partie des personnes à haut risque.
D'accord.
Et du coup, il y a un moment où on se dit qu'on se confine dans le confinement.
Oui, c'est vrai.
C'est comme une bulle.
Oui. Mais une bulle que vous avez fermée ou une bulle que vous, où vous passez la tête quand même de temps en temps ou pas du tout, du tout? Vous êtes complètement confiné?
Alors, je passe la tête de temps en temps le soir tard en sortant mon chien.
D'accord.
Et sinon, je suis bénévole dans une bibliothèque. Donc, je vais voir de temps en temps mes collègues quand il n'y a personne.
D'accord. Alors, Nina, quand vous dites que vous êtes une personne à haut risque, qu'est-ce que vous avez très exactement? Parce que là, on vous entend respirer. Qu'est-ce que vous avez?
Ah, alors je suis asthmatique très fortement.
D'accord.
J'ai une BPCO.
D'accord. Alors, BPCO, vous voulez bien préciser aux auditeurs ce qu'est
Alors, c'est une bronchite chronique, une bronchite chronique obstructive.
Voilà, c'est exactement ça, c'est une maladie chronique, hein, une inflammation des bronches.
Voilà, c'est ça.
Voilà, qui effectivement se caractérise par l'obstruction en fait, des voies aériennes. En fait,
respiratoire,
en tout cas,
voilà.
Des poumons. Donc ça entraîne une gêne très très forte.
Voilà, respiratoire. Et du coup, là, comme en ce moment, il y a pas mal de pollution, j'ai beaucoup toussé.
Oui.
Et du coup, ça m'a cassé trois côtes.
Ça vous a, à force de tousser?
Oui.
Oh mon Dieu.
Oui, donc là, c'est pas le... Il y a ça, sinon ben, je suis diabétique.
Oui.
Mais tout ça, c'est déclaré en 7-8 ans, en fait, hein. Donc, diabétique et fibromyalgique.
D'accord.
Donc, mon corps est quand même pas mal en souffrance. Et en février, en décembre, mon corps a déclenché un psoriasis sur tout le corps.
Oui. Est-ce que vous savez d'où vient tout cela?
Oui, parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi-même.
Oui.
Il faut savoir que je suis de la Basse.
D'accord.
Je suis née en 65 et mes parents d'origine maghrébine. Mmh. Mon père en a eu marre d'avoir encore une fille.
Est-ce que vous êtes combien dans la famille?
Je ne sais pas, je sais ce qu'il y a eu avant moi, mais pas après, d'après mon dossier.
D'accord.
Avant, il y avait 3-4 filles et 2 garçons.
D'accord.
Donc, lui, il n'a pas supporté d'avoir encore une énième fille. Donc, il m'a mis à la cave.
Il vous a mis
à la cave.
Dans une cave.
Oui, dans une cave. Et pour ne pas me voir.
Eh ben.
Et du coup, je pense que c'est là d'où vient mon asthme aussi.
D'accord.
Et ma peur du noir. Ouais. Et du coup, ma mère... m'a déposé à la DAS au bout de 6 mois parce que non seulement il ne pouvait pas me voir, mais il me tapait dessus. Donc je suis restée après 2 ans à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul.
Oui.
Alors ça, j'ai très peu de souvenirs, j'ai juste des souvenirs de barreaux, de lits.
Des barreaux de lits?
Oui.
Et vous aviez quel âge?
Ben ça, c'était de mes 6 mois, 2 ans et demi.
Et vous avez cette image de barreau de lit entre 6
ouais.
mois et 2 ans? D'accord.
Oui.
Bon, donc vous avez une intelligence émotionnelle extrêmement développée, ma chère Nina. Puisqu'en fait, oui, une intelligence émotionnelle.
J'ai une image de... Excusez-moi de vous couper.
Non, je vous en prie.
J'ai une image, quand j'ai peur du noir.
Oui.
Mais depuis longtemps, c'est toujours une cave qui me revenait. Mais je ne savais pas pourquoi. Et c'est quand j'ai vu mon dossier, j'ai dit, ah ben ça y est, j'ai compris.
D'accord. Alors, pourquoi est-ce que je disais ça? Parce qu'en fait, l'un des facteurs, mais des révélateurs d'une intelligence émotionnelle, c'est que plus on a des souvenirs jeunes, donc très jeunes, plus en fait on a une... C'est un signe d'intelligence émotionnelle très élevée.
Et ça veut dire quoi exactement, intelligence émotionnelle?
Alors, vous avez le QI d'Einstein,
oui.
Non. Donc, quotient intellectuel. Et puis, vous avez le quotient émotionnel. Donc, le QE. Et donc, en fait, c'est cette propension à pouvoir sentir ce qui se passe auprès des gens. Donc,
C'est énorme, ça. C'est même envahissant.
Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez entendu l'émission dimanche dernier, nous l'avions un peu évoqué avec Savia sur les zèbres.
Oui, exactement. Oui, j'étais me renseigner parce que je ne savais pas trop ce que c'était que les zèbres.
Oui.
Oui.
Donc, et j'embrasse Maxime d'ailleurs qui nous a envoyé un petit message là, ce soir, un petit SMS. Et donc en fait, Nina, si vous faites un test, peut-être que vous en faites partie. Parce que comme je vous disais, plus on a des souvenirs très très jeunes, plus en fait c'est un signe révélateur d'une intelligence émotionnelle très développée.
Alors je sais que parce que je ne dois pas beaucoup de choses à la DAS, mais il y a certaines choses qui sont positives.
Oui.
Et vers les 8-9 ans, ils nous font faire un test de QI.
Voilà, quotient intellectuel donc.
Voilà, et je sais que j'étais au-dessus de la normale.
D'accord, bon.
Ça, je m'en souviens.
On va continuer à dérouler l'histoire de votre vie qui semble déjà assez... Wow.
Elle est dure.
Oui, elle est dure, oui. Forcément, la question... Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce que vous savez qui est votre famille d'origine?
Non, aucune. Parce que j'ai été déclarée pupille d'État au bout de des 6 mois. Un an après, on m'a déclarée pupille d'État.
D'accord. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque ou est-ce que vous avez... vous vous dites, vu comment ça a démarré dès le départ, ça ne m'intéresse pas. Je ne souhaite pas...
Alors, ça manque toujours parce que je pense qu'un enfant a besoin de référence, ne serait-ce que physique.
Oui.
Ça manque quelque part.
D'accord.
Et non, ça ne me manque pas de la part de mon géniteur parce qu'il est violent, d'après ce que j'ai compris.
Oui.
Ça m'a beaucoup manqué par rapport à ma mère quand j'étais adolescente et jeune mère.
Oui.
Et maintenant, plus du tout. Mais je dirais que ça marque. On est marqué fer rouge quand il arrive.
C'est sûr. Donc, tout ce que vous savez, en tout cas, c'est que vous êtes d'origine donc maghrébine, que vous avez, en tout cas, 6 frères et sœurs.
Oui.
Donc, fratrie de 7. Vous êtes...
Et j'en ai croisé, j'en ai vu un dans la vraie vie. Un frère.
Comment le savez-vous que c'était votre frère?
Parce que je travaillais dans un endroit, j'ai fait des recherches.
Ah.
J'ai trouvé son nom, donc je lui ai dit de venir. On se rencontre. Et puis, on a arrêté là parce qu'on était à milieu de... Lui, il était ancré dans la culture arabe. Moi, je suis française et catholique.
Oui.
Malgré qu'il travaille depuis une vingtaine d'années en France, il parle très peu français, donc pas trop d'intégration. Et puis, par contre, il m'a dit « tu ressembles à maman, c'est terrible
».
Et je n'ai pas supporté qu'il me touche, j'étais très dans le tactile, et je n'ai pas supporté du tout. J'ai fait un rejet, je ne supportais pas du tout.
D'accord. Bon.
Et après, j'ai pas eu de ces nouvelles. Par contre, bizarrement, j'ai déménagé. Et bizarrement, quand je suis venue habiter là où je suis actuellement, j'ai eu des nouvelles d'un autre frère et d'une tante qui voulait absolument me voir. Mais il voulait de l'argent.
Ah oui, d'accord. Bon.
Donc, j'ai changé de numéro de téléphone. Et...
Ouais.
Sinon, non, rien du tout.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ces personnes sont entrées en contact, mais pour vous demander de l'argent?
Alors, le mot est un peu fort, mais comme un viol.
Ah oui.
Le mot est un peu fort. Il me violait mon espace. J'aurais compris qu'il m'appelle pour me dire tiens, on a su que tu avais rencontré. On aimerait bien te rencontrer, pourquoi pas?
Oui.
Mais là, pour juste de l'argent, parce qu'il savait que j'avais un travail fixe et que... Et c'était tous les soirs. Hein. Tous les soirs, il m'appelait. Hein. Mmh. Et ça m'a... Je crois même pas que ça m'ait attristée. Ça m'a dégoûtée.
Oui. Bon. Donc, une page qui se tourne, en tout cas, en ce qui concerne...
Oui, là, s'il y avait eu quelque chose à faire, elle s'est tournée ce jour-là.
Oui.
Et ça ne me manque pas intellectuellement, tout ça, ça ne me manque pas, mais je suis sûre qu'émotionnellement, ça me manque.
Mmh, je comprends. Donc, on continue ? On avance ?
Oui. Oui.
Allez, on avance. Donc, deux ans dans un hôpital, c'est ça ?
Voilà. Après, j'ai fait... Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ça doit être la façon de faire de la DAS à l'époque. J'ai fait 2 mois dans 2 familles consécutives.
Oui.
Alors, ça devait être la démarche hein, de l'époque, je ne sais pas. Et ensuite, on m'a mis chez une dame qui était à la ferme, qui accueillait des enfants de la DAS, mais plutôt des adolescents, même plus loin, qui étaient en danger. Donc, c'était temporaire.
Oui.
Et là, elle m'a prise et elle m'a gardée. Et j'ai vécu pendant 5 ans un vrai paradis sur Terre. ouais, c'était, je dis toujours que si je sais ce que c'est que l'amour, c'est grâce à elle.
Ouais, très bien.
Mais malheureusement, elle est décédée.
Ah.
Ouais. Donc, quand elle est décédée, elle a fait promettre à sa belle-fille et à son fils de me prendre.
Oui.
Pensant que ça serait très bien pour moi. Mais malheureusement, lui était alcoolique, avait fait la guerre d'Algérie, donc quand il n'allait pas bien, ben, c'est moi qui prenais. Et elle était perverse, elle était méchante. Ben, j'étais sa bonne à tout faire, j'étais tout ça, quoi. Donc on a arrêté les frais, moi j'ai arrêté les frais. En troisième, j'ai demandé à aller dans un foyer.
Vous aviez à peu près quel âge ? 12 ans, 13 ans ?
Bah quand on est en troisième, on doit avoir 13-14 ans,
ouais,
je 13-14, pense.
13-14, oui, tout à fait.
Donc, quand ils ont vu que j'étais battue, maltraitée, tout ça, parce que c'est pareil, la DAS vient voir comment ça se passe. Ouais. Mais quand ils viennent voir, alors ça se passe bien, ben on est forcément obligé de dire oui, vu que ce sont devant la famille d'accueil. Donc, on ne peut pas faire autrement que de dire oui. Sinon, si on dit non, ben on s'en prend une le soir Donc,
Et qui s'est rendu compte de ce que vous subissiez ? Qui a dit stop ?
L'école.
Ah, c'est l'école.
Le collège. Parce que j'avais une moyenne de 18 en général en début de troisième.
Oui.
Et je pense que j'ai fait un appel en faisant tomber toutes mes notes à zéro. Et du coup, on m'a fait faire une visite médicale. Et là, ils ont vu que j'avais des traces. Et puis, émotionnellement, ça n'allait plus du tout.
Oui, d'accord. Donc, vous vous retrouvez dans une autre...
En foyer.
En foyer, voilà.
En foyer. Du coup, je récupère... Je travaille pour avoir au moins mon brevet des collèges à l'époque.
Oui.
Que j'ai eu haut la main, pas de problème. Et au miracle, là, mon éducateur me dit, bah, écoute, viens chez nous, t'auras une maison solide, tu seras bien et tout. Donc j'étais super contente. Et tout ça pour m'apercevoir que ce qu'il voulait, bah, c'était moi.
Oh là là.
Donc pendant 2 ans, ça a été que ça.
Mais quand vous dites ça a été que ça, c'est quoi ?
Ben, je ne pouvais plus avoir confiance, je devais fermer ma porte parce que sinon il venait la nuit m'embrasser, m'a touché.
Oh là là, quelle horreur.
Quand il me proposait, par exemple, de faire des photos, moi j'étais contente d'apprendre à faire des photos, mais ce que je n'ai pas compris, c'était qu'on était enfermés et dans le noir.
Ouais.
Donc, ben voilà, monsieur en profitait. Donc, et comme il disait, qui on va croire, toi ou l'éducateur ? Donc c'est vite fait.
C'était des attouchements, donc ça veut dire que quoi ? Votre première expérience sexuelle, c'était clairement... non, c'était pas lui.
Non, c'était des attouchements. Il n'a jamais été...
Oui.
Okay. Il m'a embrassé, me touchait
horrible.
Les seins, les cuisses, contre-cuisses.
Quelle horreur.
Mais quand on a cet âge-là, on... Et puis même la confiance, ben, c'est foutu, quoi.
Oui, non, clairement.
c'est encore une fois, tu fais confiance et tu te fais avoir, quoi.
Ouais.
Donc, je suis partie.
Et là, l'adolescente que vous êtes, Nina, comment est-ce que vous vivez ça? Qu'est-ce que vous vous dites dans votre esprit? Vraiment, c'est une histoire incroyable.
Ce que je me dis, c'est que tout le monde ne peut pas être comme ça. C'est pas possible.
Ouais.
C'est-à-dire que j'ai une foi en l'humanité. Je ne sais pas d'où elle me vient, mais c'est comme ça. Et je me dis que va falloir que je fasse attention, que je fasse pas confiance en tout le monde. Et que de toute façon, qui n'essaye rien n'a rien. Donc si je continue à ne pas avoir foi en l'homme, ma vie est foutue de toute façon.
Incroyable. Donc
force, il faut y aller, quoi.
Ouais, une force intérieure. Donc c'est du soi fort, là. C'est incroyable. Bravo. Aussi jeune, déjà, cet instinct de survie extrêmement développé. Ok. Donc là, vous partez.
Ça dure
deux ans, hein, c'est ça?
Oui. Ouais. Et je pars, je vais dans une école de la DAS qui forme pour passer des concours administratifs.
Mais là, donc, est-ce que vous portez plainte, Nina, contre cet éducateur?
Parce qu'il me dit qui va-t-on croire?
Oui, bien sûr.
Et comme il était super coté, mais après, je m'en suis aperçue, j'étais pas la première.
Ouais.
J'aurais dû. Ça m'a pas empêchée plus tard de faire des courriers.
Oui.
Vous voyez, au moins, ça m'a libérée.
Je ne suis pas la seule à réagir. On a reçu un SMS. Alors, il n'est pas signé. Je ne sais pas qui l'a écrit, mais en tout cas, le SMS dit « Quelle horreur, Nina, quelle force en toi ». Ah oui, c'est...
C'est gentil.
Ah oui, vraiment. Donc, vous vous retrouvez de nouveau dans un autre... Et puis, vous continuez, hein, l'école. Ça qui est incroyable.
Oui, parce que de toute façon, c'était ça au trottoir, je ne sais pas. Donc,
il fallait
que j'aie un job vite fait, n'importe lequel.
Ouais.
Hein.
Ouais.
Donc, je me dépêche de revenir au tuyau qui fuit, au baignoire, au machin, réapprendre tout ça. Et je passe des concours et je les ai tout de suite, au bout d'un an. Et je vais travailler sur Paris.
D'accord. Et qu'est-ce que vous décrochez alors comme... comme emploi.
Le plus petit concours administratif. Moi, je voulais être dans la fonction publique pour avoir une sécurité d'emploi.
Enfin, de la sécurité.
Ouais.
Voilà. Donc, c'est un choix qui est en plus tout à fait, je dirais, logique par rapport à votre vie, où en fait, on vous a apporté quand même à la fois de l'amour, mais beaucoup d'instabilité, beaucoup de situations qui ne sont pas normales, je comprends parfaitement ce besoin de sécurité à travers votre travail.
Oui, parce que moi, j'étais plus dans le créatif. J'aimais beaucoup dessiner, beaucoup. Mais je me suis dit, non, trouve-toi un job, même s'il ne paye pas lourd.
Oui.
Ou tu seras en sécurité toute ta vie, quoi qu'il en coûte.
Et donc, vous décrochez ce petit concours?
Voilà, oui, j'ai dû en décrocher au moins 5, je crois. Oui, mais j'ai pris le premier qui est venu.
Oui.
Et donc, je suis allée travailler. Et puis, j'ai toujours fait des jobs. J'ai tenu 5 ans. Comme dans l'administration, on peut se faire muter.
Oui.
Donc, j'ai tenu 5 ans à peu près chaque fois pour voir autre chose.
Mm-hmm.
Et puis après, j'ai rencontré le père de ma première fille.
Oui.
Avec qui je n'ai jamais vécu.
Vous avez...
Parce que j'avais... Alors lui, je l'ai rencontré quand je faisais animatrice au départ en colo, donc je devais avoir 18-19 ans. Et il y a eu ça allait, ça n'allait pas, c'était pas fixe. Hein.
Oui.
Mais j'avais besoin, ce fameux besoin d'être aimée en fait.
Bien sûr.
Et c'était pas la bonne personne, je le savais, mais on aurait pu tout me dire de toute façon. Tant qu'il était là, même si c'était pas bien, il était là.
Oui, je comprends. Le côté, je le dis très souvent, on dit tout le temps, il vaut mieux être seul que mal accompagné, mais certaines personnes préfèrent être mal accompagnées que seules.
Oui, oui. Ouais. Par contre, moi j'avais mis mes barrières, c'est-à-dire que tu ne vis pas chez moi,
ouais.
Et tu viens, c'est bien, mais par contre tu ne vis pas à mes crochets, tu ne vis pas chez moi.
Et
moi je ne vis pas chez toi. Et du coup, on a une fille. Donc ça, c'était en 2002.
Et le père de votre fille, Et, le, oui. Et la première personne avec qui vous avez eu des relations intimes?
Non.
Ah.
Non, ah non. Le premier avec qui, c'était quand j'étais chez l'éducateur. On habitait une ville où, bah, où j'ai toujours habité dans le coin. Et j'ai rencontré des jeunes, eux, qui avaient mon âge.
D'accord.
Mais qui allaient en fac.
D'accord.
Et je me suis, quand ils m'ont reconnue, ils m'ont dit, bah, viens, viens. Et, parce que les petits villages vont en, dans la, la ville d'à côté après. Hein. Mm-hmm. Et bah, je suis sortie avec un intellectuel.
D'accord.
qui a été, mais alors je crois, mais c'est là aussi où ma vie est parsemée de petites fleurs, de petits trucs qui font que je peux rebondir. C'est que malgré ce que m'avait fait l'éducateur, le premier avec qui j'ai eu des relations a fait ça tellement romantiquement, tellement, parce qu'il savait que c'était ma première fois, que vraiment je souhaite ça à tout le monde.
D'accord. Bon, donc,
donc du coup, ça m'a permis de recroire aussi en la voilà. personne humaine.
Super. Ah, parce que c'était important de savoir comment est-ce que même au niveau affectif, ne serait-ce que le premier, j'ai envie de dire le premier amour, hein,
oui,
comment ça se passe pour vous. Et ça a duré combien de temps avec ce jeune homme?
Bah, ça n'a pas duré longtemps, vu que moi j'ai dû partir dans l'école de la DAS.
D'accord.
Et c'était loin de lui où il était à la fac, donc nos chemins se sont séparés.
Bon, donc une belle âme, encore une fois, qui traverse, enfin qui passe.
Oui, exactement.
Donc 18-19 ans, vous rencontrez le papa de votre enfant. C'est une fille ou un garçon?
Une fille.
Hein. Une fille, d'accord.
Alors je le croise, mais moi à cette époque-là, je fais animatrice pendant les vacances. Mmh. Donc je croise parce que lui, il habite à l'endroit où je fais animatrice.
D'accord.
Donc je le croise et puis on se voit pas. Moi, je vais bosser sur Paris. Donc de temps en temps, il vient me voir ou il vient pas. Et notre histoire a duré comme ça jusqu'où quand j'ai eu ma fille, c'est-à-dire je l'ai eu à 26 ans.
Mmh. Ah oui, quand même.
Oui. J'ai mis longtemps parce que... Eh ben, il fallait que j'assure mes arrières, là aussi. Je voulais pas la faire n'importe comment.
Alors, en fait, quand je dis « ah oui, quand même », c'est pas par rapport à votre fille, c'est que ça a été une relation qui a quand même duré. Parce que de 18 ans à 26 ans, on a quand même 8 ans de...
Oui, en pointillé, hein, beaucoup en pointillé. Ouais. Hein.
D'accord.
Beaucoup en pointillé, et c'est que je me suis accrochée quand même.
D'accord.
Je me suis accrochée à la mauvaise personne, mais il fallait que je m'accroche parce que je ne voulais pas rater ça, en fait.
Rater quoi?
Bah, me dire encore, tu rates quelque chose, je ne sais pas. Sachant que ce n'était pas la bonne personne qui m'allait, il n'y avait rien, quoi.
Il n'y avait pas d'autres personnes qui pouvaient éventuellement faire l'affaire pour vous?
À l'époque, je ne m'autorisais pas à valoir mieux que ça.
Ah.
Parce que je suis très en manque de confiance en moi quand même.
Oui.
Et longtemps, je me suis dit, je ne mérite pas mieux que ça comme mec ou comme...
D'accord.
Tous me paraissaient trop intelligents, trop beaux, trop ci, trop ça, trop.
Ah oui, donc vraiment une distorsion de votre image. Alors que vous
êtes, c'est affreux.
Alors que vous êtes d'une force. D'ailleurs, nous venons de recevoir un SMS d'Yvonne. Merveilleuse Nina, en tant qu'ancienne éducatrice, mon cœur saigne d'entendre son enfance. Quelle intelligence de cœur. Tous ces mots me touchent profondément. Ah oui, non, mais Nina,
c'est très gentil, ça ne fait plus rien.
Votre histoire est incroyable. Et puis vous avez vous verbalisez ça de façon incroyable. On est vraiment pris par votre histoire. C'est... Et puis bon, moi j'ai toujours tendance à dire faut l'écrire. Si vous pouvez écrire, écrivez-la. C'est incroyable. Cette résilience.
Je suis en route là pour le faire.
Oui.
Je suis en chemin. Faut encore que je décortique certaines choses dans ma tête pour pouvoir bouger.
26 ans. Vous avez votre fille.
J'ai ma fille, donc accouchement pas facile, mais bon, je l'ai, super. Et
vous la vouliez? C'était voulu de vous?
Ah oui.
Et lui, non?
Ah, ben, il dira plus tard que non, que je lui ai fait dans le dos, mais c'est pas vrai. Mais
d'accord.
Ça, c'est son choix, je lui laisse. Parce que jamais j'aurais été capable de faire ça. Mmh. Par contre, moi, je savais que je lui donnais pas toutes les cartes en main à ma fille.
Ouais.
Parce que je savais que je ne terminerais pas avec son père.
Alors, en parlant de terminer, vous savez, on est dans l'obligation de rendre l'antenne
oui.
à 1h du matin. Alors,
oui.
on va vraiment prendre notre temps, Nina. Si jamais on n'a pas terminé, ce qui, je pense, ne sera peut-être pas le cas, on continuera ensemble, d'accord, demain, si vous êtes dispo.
D'accord, oui.
Hein, disponible.
Oui.
Voilà,
oui,
l'émission démarrera à 22h30. Donc voilà, tranquille.
D'accord.
D'accord.
Là, il est quelle heure? Parce que j'ai pas de...
Alors, il est minuit 53 et 57
d'accord.
secondes, très exactement.
Oui, parce que j'en ai encore à raconter,
mais
en
oui.
fait. Parce qu'il y a du positif aussi. Hein,
bah,
y a...
bah, à vous entendre, en tout cas, déjà, vous êtes là. Donc, donc c'est déjà extraordinaire. Une force incroyable. Voilà, c'est... Bon, donc, ce monsieur, il reste combien de temps après vos 26 ans, finalement, une fois que votre fille...
Il reste plus, non, je voilà. le mets à la porte, mais il revient par la fenêtre.
D'accord.
Et puis, comme je savais que je ne donnais pas toutes les chances à ma fille, j'ai décidé de demander une mutation pour qu'elle soit près de son père, par contre.
Ah, voilà. Donc, ça, c'était...
Donc, j'ai fait une mutation pour qu'elle soit près de son père. Mais comme c'est un monsieur qui fait ce qu'il veut quand il veut, bah, il venait pas la chercher, il faisait ce qu'il voulait, quoi.
D'accord. Mais pas, donc, pas le même modèle que votre géniteur, en tout cas. C'est pas
quel... Ah non, 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 c'est non, un... non, rien.
À ce jour,
rien
c'est
à
un...
voir, c'est...
À ce jour,
c'est juste... Oui, pardon.
Non, j'allais vous demander si, à ce jour, c'était encore un bon papa.
À sa manière.
Oui, d'accord. Bon, bah, on le saura
pas. À sa manière. Non, non, lui, c'est plutôt quelqu'un d'asocial, qui ne veut pas de chef, qui veut faire ce qu'il veut quand il veut. Qui ne veut surtout pas rentrer dans le moule.
D'accord.
Donc, alors, je suis restée là-bas à 5 ans. Et puis, au bout de, je crois, 2-3 ans, il a pensé que j'allais revenir avec lui, mais moi, il était hors de question.
Mm-hmm.
Et là, ça a commencé à s'envenimer, c'est-à-dire qu'il me prenait ma fille, qu'il ne me la rendait pas,
ah.
ou qu'il allait la chercher alors qu'il n'avait pas le droit à ce moment-là.
Mmh.
Et l'endroit où j'habitais, c'est toujours une ville d'extrême droite. Et mon nom de jeune fille est un nom arabe.
Oui.
Et lui, il a un nom bien français. Et ben là-bas, les gendarmes ne se déplacent pas pour les gens d'origine arabe. Donc, ma fille n'était pas là pendant 3 jours, c'était pas grave.
Ça, c'est la déduction que vous en faites, Nina.
Ah non, c'est véridique. J'ai été porter des plaintes, ils prenaient pas. Non, non, de toute façon, non, nous, on s'en fout de vous.
Ah bon?
Ah oui, c'était... Moi, j'ai vu ma vie changer le jour où je me suis mariée. Hein.
Ah.
Quand j'ai changé de nom.
D'accord.
C'était hallucinant.
Ah oui, c'est parce que c'est...
Oui.
D'accord.
Mais c'est des petites villes de campagne où c'est très...
Oui.
Ça se vit pas, mais ça se vit très... Ça se vit, par contre.
D'accord. Bon.
Mais bon, ben, ça c'est... Et puis, du coup, ça s'est envenimé le jour où... qu'est-ce qu'il a fait Oui, bon, il a fait des... Oui, il a fait pas mal de choses, enfin bon. Et puis, un jour, ma voisine me dit « Oh, tu vas pas rester comme ça toute seule dans ta vie. Viens sur l'ordinateur, viens t'inscrire sur un site. » Je dis « Non, non, moi, j'y crois pas à ça, puis j'ai pas d'ordi. » Elle me dit « Allez, on se fait une soirée comme ça. » Bon, ok. Et j'y vais, et je m'inscris. Et puis, au bout d'une heure, il y a quelqu'un qui accroche. Et on a parlé toute la nuit.
Oui.
Et lui, bah, pareil, c'était sa première fois qu'il allait dessus. Et depuis, bah, on est mariés.
Ah, génial.
On est mariés, on s'est mariés un an après. On a eu une fille.
D'accord.
Et donc, la vie a changé. On est venus sur Paris.
Oui.
Et le père de ma première fille a fait pas mal de choses, mais ça, il s'est calmé depuis. Et donc, voilà... J'ai pris un travail là dans le coin.
Oui.
Et du jour au lendemain, mon corps a cédé.
Ah. Et, il a cédé il y a combien de temps?
Il a cédé, j'avais 47 ans.
Et il a cédé comment, Nina?
Eh bien, j'ai su après que c'était une fibromyalgie.
Donc la fameuse fibromyalgie. Alors, est-ce que vous voulez expliquer, parce que la fibromyalgie, en fait, je vous laisse expliquer avec vos mots, parce que vous racontez tellement bien.
C'est gentil. Bah, la fibromyalgie, moi, il semblerait qu'en fait, je l'ai depuis longtemps. Mais comme je n'écoute pas mes douleurs,
oui.
ça a fait qu'empirer, en fait. Mmh. Alors, la fibromyalgie, c'est une douleur un peu sur tout le corps.
C'est ça.
C'est comme si on avait une tendinite. Quand on a une tendinite, on a mal à un tendon.
Tout à fait.
Et bien là, c'est une tendinite sur tout le corps.
Alors, la fibromyalgie, on l'appelle aussi la fibrosite ou la fibrosite aussi, je crois.
Oui, oui.
C'est aussi comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, ce sont des douleurs chroniques aussi, hein.
Des douleurs chroniques, c'est une souffrance.
Oui.
Ça peut être une étiquette d'une culotte qui fait souffrir, mais atrocement.
Mmh.
Un pli d'un drap qui... N'importe quoi. Et parfois, on ne peut pas du tout bouger parce que notre corps est enfermé dans cette douleur. Et puis, c'est les nerfs, tout est pris, tout est...
Alors,
c'est atroce.
En parlant de bouger... On va inviter nos auditeurs à rester demain, de se donner rendez-vous à 22h30.
D'accord.
Parce que là, l'émission touche à sa fin. En tout cas, demain, on démarre l'émission avec vous, Nina, d'accord?
Merci, Sana.
Un immense merci, vraiment. Je vous souhaite une
bonne nuit,
bonne nuit également. Bonne nuit à tous les auditeurs. Merci pour votre fidélité. Désolée pour l'émission raccourcie, mais on fera mieux demain. Bonne nuit. Il est 1h du matin et vous écoutez Europe 1. Tout de suite, le programme de la nuit.